France Culture.
Les nuits de France Culture.
Dans le quatrième et dernier volet de la série qu'il consacrait en 2009 au 36 Quai des Orfèvres, c'était les portes capitonnées, celles des bureaux du haut de la hiérarchie policière que poussait Alexandre Hérault jusqu'à celle du préfet de police de Paris de l'époque, Michel Gaudin. Une émission qui s'ouvrait sur l'évocation de l'affaire Richard Durne, le responsable de la tuerie du conseil municipal de Nanterre en 2002, qui s'était défenestré dans les locaux de la brigade criminelle. À partir du rappel de ce suicide et des attaques dont furent la cible les fonctionnaires de la brigade criminelle, durant ce dernier jour passé au 36, Alexandre Hérault remontait tous les étages de la pyramide de la police parisienne pour mieux comprendre les relations entre eux de chacun de ces étages, mais aussi pour éclaircir la relation complexe qu'entretenaient les citoyens français avec leur police. Un dernier volet dans lequel intervenait notamment Pierre Jox, qui fut par deux fois ministre de l'Intérieur. Une semaine au 36, quatrième et dernier épisode, derrière les portes capitonnées, diffusé le 2 avril 2009 sur France Culture.
7 fourgons en moins de 18 mois, 9 convoyeurs au tapis, un butin qui s'élève à presque 2 millions d'euros. Résultat des courses, le chef de cabinet du ministre nous pond une note en nous demandant, je cite, de prendre le problème à bras-le-corps et de tout mettre en œuvre pour endiguer l'action de ces dangereux criminels qui narguent nos services depuis trop longtemps. Trop longtemps, c'est des mots que j'aime pas. Ça veut dire ça fait trop longtemps que vous êtes là, trop longtemps qu'on vous paye rien foutre. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je veux tout le monde sur le pont 24 heures sur 24. Vous laissez tomber vos problèmes personnels. Vous oubliez les dimanches sous la couette. Et vous vous démerdez pour me retrouver cette équipe d'enfoirés avant qu'ils aient le temps de remettre le couvert une 8e fois.
Une semaine au 36.
Me suis bien fait comprendre ?
4e jour. Derrière les portes capitonnées.
Je me suis bien fait comprendre, capitaine Kechichian ?
Alexandre Hérault, Yvon Croisier.
Aussi loin que vos souvenirs peuvent remonter, Jean-Claude Mulès. On est là dans la cour du 36, juste en dessous de l'endroit où Durne a échappé au contrôle, à la diligence de ceux qui l'interrogeaient. C'est un traumatisme qui est encore dans toutes les mémoires, qu'on peut peut-être évoquer qu'avec quelqu'un qui l'a vécu et qui n'est plus dans les murs.
Absolument. Moi, je l'ai vécu, oui, en direct. C'était, je crois, au mois de mars 2002, après la fusillade qui s'est produite au conseil municipal de la mairie de Nanterre. Richard Durne, donc, en était l'auteur. Il a été, bien sûr, dirigé au 4e étage dans nos bureaux. Il était en audition et il a profité d'un moment, même pas profité, le terme est faux. Il était animé d'une volonté suicidaire, faut pas se leurrer. Alors vous allez me dire, mais pourquoi, comment il a pu s'échapper et tout, il n'était pas accroché, il n'était pas menotté, et ben non, justement. Lorsqu'on veut faire parler quelqu'un, lorsqu'on veut l'amener à une confession, il y a un précepte que je vais reprendre. Poignée entravée, esprit bloqué.
Loïc Garnier, en mars 2002, éclate l'affaire Durne. Vous êtes le numéro 2 de la brigade criminelle, l'adjoint de Frédéric Pechenard. Vous vous souvenez ?
C'est en effet un souvenir à la fois douloureux et très enrichissant. C'était un événement, en effet, inhabituel. Je me souviens, il devait être minuit ou une heure du matin lorsque j'étais réveillé par le téléphone et lorsque l'on m'a annoncé qu'il y avait eu des coups de feu à la mairie de Nanterre. Nous avons effectué les constatations. Je me souviens que ces opérations de constatation, Frédéric Pechnard m'en avait chargé, ont duré de 1h du matin à midi le lendemain. Nous étions 7 ou 8 à les faire. Et puis, bon, une scène abominable, une scène que nous avons pu reconstituer grâce aux témoignages, reconstitué grâce aussi à l'enregistrement audio de ce conseil municipal. Un véritable cauchemar. J'imagine l'abomination qu'ont pu vivre les gens qui étaient là-bas, et le courage aussi qu'ont pu avoir un certain nombre de gens pour neutraliser Richard Durne au péril de leur vie. Certains se sont sacrifiés d'ailleurs pour cela. Et puis Richard Durne, cet individu énigmatique. Le parti qu'avait pris Frédéric Pechnard et le groupe d'enquête était tout à fait logique. Il fallait comprendre. Pour comprendre, il faut que l'individu auteur des faits s'exprime. Si vous prenez un déséquilibré comme pouvait l'être Richard Durne, vous l'attachez aux pieds, aux mains, aux cheveux, à la tête, et bien finalement, vous lui attachez la langue. Richard Durne était entendu par deux fonctionnaires de la brigade criminelle. Et puis, tout d'un coup, l'impossible est survenu. Il est devenu comme une espèce de d'oiseau. S'est jeté à travers un vasistas placé complètement en hauteur. Et il a sauté. Il a sauté, manquant d'entraîner dans sa chute un fonctionnaire de la brigade qui le retenait. Et il est tombé. Je me souviens, nous étions, Frédéric Pechnard et moi-même, dans le bureau lorsque un des fonctionnaires du groupe est entré dans le bureau, a annoncé, mais il est tombé. Je suis immédiatement descendu, j'ai vu en effet le corps de Richard Durne, les pompiers sont arrivés. Ils ont essayé de le réanimer, c'était impossible, bien entendu. Et alors oui, ça a été un traumatisme. Dans un premier temps, la nouvelle, bien entendu, s'est répandue comme une traînée de poudre. Nous étions accusés. La brigade criminelle était accusée de n'avoir pas saucissonné Richard Durne comme il aurait dû l'être.
Il n'est pas menotté. Il se précipite dans le vide. C'est la première fois que ça se passe. Et c'est la première fois aussi. Éric Trudel, de mémoire de policier, que des hommes du 36 vont devoir subir l'infamie suprême qui consiste à être à leur tour suspectés et donc sur lesquels on va enquêter avec la fameuse IGS, l'inspection générale des services qui arrive ici. C'est un vrai traumatisme.
Écoutez, je pense que ça a d'abord été un traumatisme, bien évidemment, pour les enquêteurs du groupe. Le chef de service, qui est directeur général de la police nationale actuellement, a immédiatement soutenu et apporté son soutien et sa confiance au groupe entier.
Frédéric Pechnard.
Monsieur Pechnard, effectivement. Et par la suite, c'est tout à fait logique qu'il y ait quand même une enquête. Nous sommes des fonctionnaires de police, donc il y a une enquête. Je sais que pour certains, ça a été encore, bien évidemment, un traumatisme supplémentaire. Mais cette enquête aussi permet, et c'est son but, d'établir exactement ce qui s'est passé. Et très rapidement a été écartée l'hypothèse que la police pouvait être responsable de cette chute sinon de mauvaise langue. Ou... Mais je pense que ça a été rapidement écarté.
Mais de mémoire de syndicaliste, Éric Trudel, vous avez souvenance d'un élan de solidarité autour de quelqu'un représentant comme ça aussi votre hiérarchie, en disant si vous touchez à lui, attention, qui s'y frotte ses piques de certaines manières, on est tous derrière lui, nous aussi.
Écoutez, rarement, mais je pense que c'est la vocation des grands chefs et des hommes qui, justement, dans ce métier comme dans l'armée, ont à soutenir leurs collaborateurs, notamment quand ces hommes, ces collaborateurs sont parfaitement intègres. Et je pense que c'est pour cette raison que les chefs directs, mais également les directeurs, la hiérarchie de la police, a accordé leur confiance totale et leur soutien.
Je me souviens lorsque le préfet de police est venu sur le palier du 4e, puis visiter le bureau depuis le vasistas duquel Richard Durne s'était jeté, tout le monde s'est rassemblé sur le palier. Et quand le préfet de police est sorti du bureau, tout le monde était là, dans un silence glacial. Et le préfet de police, à l'époque, a eu les mots qu'il fallait, en disant qu'il avait compris. La presse a voulu comprendre aussi, et la presse a compris d'ailleurs. Finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre, grâce aussi au courage de Frédéric Pechenard, qui a complètement assumé. Il a dit « mais c'est moi qui ai donné les instructions pour que Richard Durne ne soit pas attaché ». Et c'était d'ailleurs la vérité. Et je crois, en effet, pour revenir à ce que l'on disait, eh bien, chef de la brigade criminelle, c'est un poste qu'on doit assumer. Oui, c'est vrai. Vous savez, quand on occupe, ou on a occupé ce poste, on a occupé le plus beau poste de la police judiciaire. Alors, ce qui peut advenir après, peu importe. Lorsqu'on rentre dans la police en décidant d'aller à la police judiciaire, qu'est-ce qui peut vous arriver après avoir fait le métier totalement que vous souhaitiez faire? Moi, je suis rentré là en n'imaginant pas un jour que je puisse diriger ce service. J'ai le bonheur de le diriger, j'ai fait ce que je voulais faire. Donc, c'est facile pour moi d'assumer. Bien sûr, on peut sauter. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça.
Frédéric Pechenard, on essaye aujourd'hui d'écouter ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui se tisse, se dessine derrière les portes capitonnées. Et si nous avons choisi d'évoquer avec vous l'affaire Richard Durne, vous qui êtes devenu depuis le 11 juin 2007 le directeur général de la police nationale ici rue des Saussayes, après 25 années passées à la PJ, c'est que son récit occupe une place particulière dans votre carrière sans faille, et constitue même le chapitre central dans votre livre modestement baptisé « Gardien de la paix », un chapitre intitulé « Ma tête sur le billot ». La partie qui s'est jouée entre vous, alors patron de la crime, et votre hiérarchie en cette fin du mois de mars 2002, nous permet peut-être de comprendre l'essence de son fonctionnement. Le rôle, Frédéric Pechenard, tout simplement incombant à celui qu'on appelle le patron, non?
Oui, absolument. D'ailleurs, j'ai pas ressenti cette période comme étant une période spécialement difficile en termes de relations hiérarchiques. Vous savez, quand vous êtes à votre place, quelle qu'elle soit. Et à l'époque, j'étais le chef de la brigade criminelle, et j'avais donc à assumer ce que j'avais fait comme chef de la brigade criminelle. Ni plus, ni moins. Donc le directeur de la police judiciaire n'était pas impacté par ce que j'avais décidé, et de la même façon, j'estimais normal que les gens qui étaient placés sous mon autorité et qui n'avaient fait qu'obéir à mes ordres ne le soient pas impactés non plus. Donc vous êtes à votre place, vous subissez, vous savez, quand vous avez été policier pendant 25 ans, vous avez été confronté, spécialement bien sûr, à la police judiciaire, des trafiquants, des violeurs, des meurtres, des blessés, des morts, des horreurs, des joies aussi, beaucoup, une solidarité importante dans ce milieu policier si fort, où la famille est quelque chose de très soudé, de très important. Eh bien, vous passez à côté, au-dessus, à droite, à gauche, de tout un tas de difficultés, puis de temps en temps, vous tombez dedans. Alors, faire recharger en était une, ça n'a pas été la seule. Ça a peut-être été la plus médiatique. C'est pas forcément celle qui m'a le plus marqué ou qui m'a le fait le plus souffrir, j'en sais rien. Mais enfin bon, puisqu'on en parle, c'est tout de même un temps fort. C'est d'abord, bien sûr, et avant tout, un sentiment d'échec. Un sentiment d'échec parce que à la brigade criminelle, on a une très haute idée de notre mission et on estime que on doit être absolument parfait. Et à partir du moment où quelqu'un se suicide, ça veut dire que on ne peut pas le déférer devant la justice. Il ne sera pas jugé par un tribunal avec la procédure que l'on a fait. C'est donc incontestablement un échec de la police judiciaire, de la brigade criminelle et donc du chef de la brigade criminelle. Donc l'affaire Durne, c'est d'abord un échec que j'ai assumé. Voilà. Après, c'est des solidarités, des émotions, des... Comment dirais-je, l'appartenance à une famille dans un moment difficile et la fierté d'appartenir à cette famille qui est la police judiciaire et spécialement celle du quai des Orfèvres.
C'est vrai, Frédéric Pechenard, qu'après cette affaire Durne qui vient d'être évoquée, vous avez dirigé l'ensemble du 36 et là aussi il y a eu d'autres moments de tourmente et le mot fusible revient parfois. À un confrère qui constatait que ce poste-là de directeur de la PJ pouvait être un poste à risque, qu'on pouvait sauter, vous disiez, pour lui répondre, il faut vivre ce poste comme si on était immortel et comme si on allait mourir demain.
Oui, je pense que c'est une assez bonne philosophie de la vie, d'une façon générale, et particulièrement de la vie administrative. Alors, deux choses. D'abord, il faut relativiser. Quand on a la chance, surtout en ces périodes difficiles, d'être fonctionnaire, certes, on peut être viré, on peut sauter, comme on dit, servir de fusible. Servir de fusible, ça veut aussi souvent dire porter ses responsabilités. Parce qu'après tout, quand vous êtes viré, c'est souvent tout de même que vous avez commis une faute et que vous devez porter vos responsabilités. Il n'en demeure pas moins que j'étais directeur de la police judiciaire ou j'étais avant chef de criminel. Si j'avais été éjecté d'une façon ou d'une autre, je me serais retrouvé au cimetière des éléphants, à l'inspection générale de la police nationale ou quelque chose. Donc on n'est pas pendu, on ne se retrouve pas en prison, on n'est même pas au chômage. Donc il faut tout à fait relativiser ça. Mais par contre, je pense que cette philosophie qui consiste à se dire je suis là pour toujours, mais en même temps, ça peut s'arrêter dans 5 minutes, vous donne suffisamment de recul, si on l'a bien intégré, pour justement être bien à son poste et à l'aise. Il faut vouloir tenir le poste, quel qu'il soit, tous les postes de responsabilité, mais ça va de chef de groupe à la criminelle jusqu'au directeur général de la police nationale, chacun a sa responsabilité, on tient donc cette responsabilité, et on y tient, parce qu'elle est importante et elle vous plaît, et en même temps, il faut savoir qu'on peut la quitter tout de suite. Et à ce moment-là, c'est ça qui vous permet, pour dire les choses de manière un peu grandiloquente, et je m'en excuse, mais d'être digne.
— Jean-Jacques Herlem, ici, dans votre bureau de directeur adjoint de la police judiciaire parisienne, vous avez, derrière cette porte capitonnée dans ce second étage du 36 Quai des Orfèvres, l'impression d'être encore sur le terrain, parfois, ou complètement coupé de l'ordinaire de ce qui constitue le travail de police.
Alors, dans une fonction de direction, il faut faire tourner la boutique et il faut s'occuper de tout ce qui doit marcher autour des services pour que ces services soient performants et puissent se consacrer à leur mission. Donc, il est certain qu'on a des tâches qui s'apparentent à de la logistique, à de la gestion, de l'administration, de la discipline et autre chose. C'est évident. Et puis, de la gestion de ressources humaines, c'est-à-dire que tous ces gens-là, il faut quand même les gérer au mieux et prendre le temps de les écouter pour un certain nombre d'entre eux. Après, la réalité, on l'a tous les jours au rapport le matin, à travers la relation de l'actualité du jour. On l'a en permanence parce que les 6 chefs de brigade centrale que vous avez évoqués, j'ai un fil rouge avec eux toute la journée sur le déroulement des enquêtes les plus importantes et sur les difficultés ou les succès qu'ils rencontrent. Donc j'ai pas du tout l'impression d'être coupé du terrain, que j'ai un peu de nostalgie quand je vois partir les enquêteurs en mission, ça c'est une réalité.
Vous avez devancé ma question.
Oui, bien sûr, on est toujours nostalgique quand on a été chef de la BRI, quand on a été à la BRB et quand on a connu le sirop de la rue, hein, c'est vraiment, on a vécu des choses fortes.
Jean-Jacques Herlem, on vient d'évoquer brièvement... Tous ceux qui sont sous vos ordres, ici, ils sont nombreux, au 36. Alors maintenant, évoquons ceux qui sont au-dessus de vous. Ouais. Au-dessus de vous, qui trouve-t-on, Jean-Jacques Herlem ?
Le directeur de la police judiciaire, je ne suis que son adjoint.
Au-dessus du directeur de la police judiciaire ?
Deux autorités, bien sûr. Le préfet de police et le procureur de la République de Paris.
Mais Jean-Jacques Herlem, on va trouver aussi quelque chose qui est au-dessus comme autorité de monsieur le préfet de police de Paris, qui sera donc le ministère de l'Intérieur. Vous savez que à deux pas de chez vous, puisque là, depuis votre bureau, on voit un peu la place Dauphine, vit un ancien ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, qui peut peut-être même voir vos fenêtres. Je ne sais pas s'il essayait de regarder ce qui se passait à l'intérieur du 36 quand il était en exercice. Le politique, alors, comment, à un moment donné, intervient-il, ou dans les affaires en cours, on soupçonne souvent des liens entre politique et police, qu'est-ce que vous auriez envie de nous répondre sur cette question qui est un peu générique, allez-vous me dire, mais qui est un peu dans la tête de tout le monde. On imagine, de par beaucoup de fiction, le commissaire supérieur recevant un coup de fil de sa hiérarchie qui lui-même vient de recevoir un coup de fil du ministre. C'était le ministre. Oui, monsieur le ministre. Tout ça, non.
Alors, je ne sais pas, il faudra demander au préfet de police hein, s'il reçoit des coups de fil du ministre. Non, je pense que plus sérieusement, nous faisons partie du ministère de l'Intérieur. Et si notre maison d'emploi est la préfecture de police, nous sommes complètement du ministère de l'Intérieur. Nous avons des liens opérationnels très forts avec la direction centrale de la police judiciaire. Nous jouons le jeu complètement de la coordination que cette direction centrale doit tenir hein, dans un certain nombre d'affaires judiciaires ou de problématiques, hein, dès lors qu'une affaire aurait des prolongements nationaux ou qu'une affaire serait et parisienne et provinciale. Bien évidemment, il y a des fonctions de coordination. Bien évidemment, il y a à la direction centrale de la police judiciaire des offices centraux, dont c'est la tâche de collecter de l'information, de la traiter. C'est également leur métier et une grosse partie de leur travail que d'être le point d'entrée de l'international et des relations que les services français doivent avoir avec leurs homologues à l'étranger, européens d'abord, mais à l'étranger en général. Donc on joue complètement le jeu de cette liaison opérationnelle avec la direction centrale PJ, et donc il n'y a pas de tension autour de l'idée qu'il y a aussi le ministère de l'Intérieur et que
nous serions tiraillés dans cette situation. Je crois qu'avec le temps, les choses se sont calées, avec le temps, l'usage, la bonne volonté de chacun. Nous sommes complètement du ministère de l'Intérieur. Et je pense que le ministre de l'Intérieur n'ignore rien de ce que nous faisons.
Christian Flech, j'espère que le directeur régional de la PJ parisienne va me pardonner cette question. Nous sommes ici au sommet de la pyramide, bien que au-dessus de vous, vous allez me dire, se trouve tout de même quelqu'un, le préfet de police, et puis peut-être aussi avant le directeur général de la police nationale avec qui vous avez beaucoup à faire aussi. Expliquez-nous comment ceci est ordonnancé.
Alors, extrêmement pratiquement, juste au-dessus de moi, c'est le bureau du procureur de la République. Donc, important bien sûr, ouais, puisqu'on a compétence sur quatre ressorts avec quatre procureurs de la République différents. Et bien sûr, je dépends administrativement du préfet de police qui est un tout petit peu plus loin.
C'est-à-dire que vous avez envie d'évoquer ce qui est aussi le principal ministère de tutelle de la PJ, c'est-à-dire celui de la justice, alors qu'on vous sent et qu'on vous sait rattaché à celui du ministère de l'Intérieur.
Le ministère de tutelle de la police, c'est le ministère de l'Intérieur jusqu'à présent. D'accord. Et dans le cadre des activités judiciaires, qui pour la police judiciaire représente une grande partie de notre activité, naturellement c'est des magistrats, magistrats du siège, magistrats du parquet qui nous dirigent.
Vous montez pas sur le jusqu'au dernier étage, puisque vous arrêtez la plupart du temps au second étage, Christian Flech. Ceci dit, certains confrères, vous n'hésitez pas à dire que votre endroit préféré au 36, ce sont les toits. C'est là où vous vous apercevez, si près de ce point kilométrique zéro, qui est Notre-Dame de Paris, que vous êtes au centre des choses.
Je pense que géographiquement, on peut se sentir au centre des choses, et au travers de notre activité au quotidien, on peut se sentir de temps en temps au centre d'un certain nombre de choses.
C'est la définition que vous donneriez, Christian Flech, du travail policier, être au centre des choses.
C'est pas notre vocation, mais c'est la réalité.
Quelle autre définition, alors?
C'est une bonne question. Donc, quelle est la définition du travail de policier?
Pour parler de police judiciaire.
Oui, c'est sans doute être quelquefois à l'avant-garde d'un certain nombre de mouvements de la société. On parle des stupéfiants, on parle de la pédopornographie, on parle des évolutions dans le banditisme aussi. On a un certain nombre de petits témoins d'alerte qui font qu'on est quelquefois, au-delà même du centre des choses, un peu en avance sur un certain nombre de prises en compte par la société.
C'est votre grand souci.
Le grand souci, c'est d'arriver à s'adapter à ces évolutions, avec les pesanteurs administratifs qu'il peut y avoir, avec des difficultés juridiques aussi, parce que les textes ne sont pas toujours adaptés à ces évolutions-là, et après avec des difficultés pratiques, parce qu'il faut qu'on ait les moyens de pouvoir suivre ces évolutions.
Est-ce que vous avez l'impression, Christian Flech, question au directeur de la PJ parisienne, que ce travail-là de vos hommes est compris par le grand public et apprécié à sa juste valeur?
Alors, je pense que oui, mais alors après, c'est mon expérience personnelle. J'ai le sentiment que le travail de la police, il est quand même compris. Alors, il est décrié dans certaines populations, il est évidemment parmi les clients qu'on a au quotidien, il est souvent décrié, mais quand on sort de ce quotidien et des gens qu'on convoque ou qu'on va chercher pour différentes occasions, je pense que ce travail, il est tout à fait compris.
S'il y a une chose tout de même consubstantielle au travail policier, à sa fonction au sein de la cité, c'est aussi sa discrétion, d'où une certaine imperméabilité, j'allais dire, avec le monde journalistique. Vous faites partie de ceux qui posaient un regard bienveillant sur cette ouverture que l'on peut avoir envers le monde des médias, jusqu'à nous accorder ici, chose rare, Christian Flech le dit, un entretien.
C'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'on est tenu par un certain nombre de règles, d'obligations juridiques, il y a le secret de l'enquête, le secret de l'instruction, et puis en même temps, on est aussi tenu par les évolutions de la société, et la communication est quelque chose qui est importante. On ne peut pas rester à côté de tout ça, bien sûr. Les moyens modernes font que si on est à côté, on est dépassé. Donc on doit essayer de concilier nos obligations juridiques avec l'évolution du monde dans lequel on vit. Et c'est d'ailleurs l'objet de plein de discussions sur l'évolution du secret de l'enquête, du secret de l'instruction, avec toutes les réformes qui sont en gestation dans les esprits ou dans les textes.
Martine Monteil, si on commence cet entretien que vous nous accordez ici à la préfecture de police de Paris par juste évoquer ce qui, dans votre livre, Flic, tout simplement, mais ce fut pas peut-être aussi simple que ça, hein, ce que vous évoquez, c'est-à-dire ce traumatisme qui est peut-être encore là dans votre esprit d'avoir quitté le 36 quai des Orfèvres. Alors s'il fallait aller vite, je résume et vous me pardonnerez d'être bref, de commissaire où vous fûtes l'une des toutes premières femmes commissaires d'ailleurs, de toute façon avec vous il faut toujours utiliser ce terme-là, la toute première presque. Presque. Vous avez toujours fait sur ce registre. Donc, après avoir été la première à diriger un commissariat, puis la brigade de répression du proxénétisme, et ensuite la fameuse BRB, et puis voilà, la CRIM. Mais vous n'êtes pas arrêté là, puisqu'après vous avez dirigé, pardonnez du peu, l'ensemble des services au 36, pour ensuite commettre la première infidélité, c'est ça ?
Oui, en quelque sorte. Ah, mais enfin, j'étais toujours dans la famille de la police judiciaire, parce que quand on est directeur central de la police judiciaire, on s'occupe de la famille judiciaire au national. Hein, mais bon, on n'a pas totalement... On a quitté le 36, et c'est vrai que c'est douloureux, mais enfin, on reste en PJ.
Et puis aujourd'hui, encore une autre aventure, à côté du préfet, vous êtes directement la première à ses côtés, de Michel Godin, ici à la préfecture de police.
Oui, alors effectivement, je suis maintenant préfet, secrétaire général de la zone de défense, donc je gère, j'anime sous son autorité toutes les partenaires civils et militaires dans le cadre de gestion de crise. Voilà, alors que soit les crises au sens le plus large et le plus douloureux du terme, que sont les attentats, mais aussi les phénomènes naturels, ça peut être des crues, une pandémie, ça peut être tout un tas de problèmes. Nous organisons aussi des exercices qui me permettent régulièrement de travailler à nouveau avec les services de police judiciaire. Voilà, donc un assez lourd programme.
Alors, Martine Monteil, cette première ascension des marches du 36 quai des Orfèvres.
Alors, je vais d'abord vous étonner, parce que j'ai grimpé ces marches, je n'avais pas tout à fait 10 ans, donc j'étais une enfant, et je venais voir mon père qui était à la BRI. Donc, vous voyez que...
L'Antigang,
à l'Antigang, donc ça date vraiment des années 60, et je ne pensais pas, surtout pas à cette époque, qu'un jour, je gravirais à nouveau ces marches, mais évidemment, en tant que jeune commissaire, où j'ai d'abord servi en territorial, comme on dit, c'est-à-dire à l'époque brigade territoriale, aujourd'hui division de police judiciaire, qui s'occupe de la moyenne délinquance. Et puis il est vrai qu'après, c'était la première fois qu'on confiait un commissariat de PJ, de quartier, à une femme. Donc très prudemment, la hiérarchie à l'époque m'a confié le commissariat de Saint-Thomas-d'Aquin, un des plus petits de Paris.
Rue Péronnet
dans le 7e, avec quand même dans un milieu très bourgeois, en se disant, bon voilà, peut-être que pour les débuts d'une femme, ça conviendra bien. Voilà.
Oui, il y a eu des belles rencontres là-bas, Jean Cybert qui venait se confesser à vous souvent, vous préparant des chocolats imbuvables. Oui. Elle était fragile, c'était avant sa disparition. Gainsbourg aussi, qui aimait bien fréquenter.
Des voisins, Thierry Leluron, qui venait nous rendre son permis de conduire régulièrement, le sourire aux lèvres. Ah non, il y avait une ambiance. Alors ceci dit, quand même, et vous avez dû noter dans mon livre que dans ce commissariat, même si la hiérarchie à l'époque pensait que bon, on prenait pas trop de risques en mettant une femme dans un petit commissariat, 6 mois après, j'avais l'inspection générale des services quand même. Histoire de voir si tout fonctionnait bien quand une femme était à la tête du service. Voilà.
Ouais, c'est-à-dire qu'une femme, on lui...
Il fallait vérifier.
Il fallait toujours vérifier, et puis on lui pardonne rien aussi.
Exactement, on lui pardonne rien, mais bon, ça ne m'a pas traumatisé, outre mesure. Voilà.
Oui, mais revenons sur, si vous le voulez bien, Martine Monteil, sur justement, alors, puisque vous étiez du Sérail, c'est vrai que votre grand-père aussi était de la maison, hein ?
Tout à fait.
D'accord, et votre mari l'était aussi.
Oui. Tout ça.
Donc il n'aurait pas été possible finalement d'imaginer autre chose que d'être flic.
Pourquoi pas, ça s'est trouvé comme ça, c'est aussi le hasard. On ne l'a pas construit, on ne l'a pas cherché, c'est ça, c'est la vie.
À chaque fois, à chaque fin de ce chapitre de ce qui est devenu, de cette vie qui est devenue ce livre-là que vous publiez, Martine Monteil, ça finit de la même façon. Vous êtes convoqué par votre chef qui vous dit, bah, écoutez, il semblerait que ça soit vous à qui l'on pense. Comment à chaque fois vous le recevez?
Bah, je n'ai pu le recevoir qu'en étant très flattée, parce que à chaque fois on m'a proposé un service et plus important et plus lourd à diriger et toujours aussi prestigieux, hein, mais dans un style différent. Donc c'était une découverte nouvelle, parce qu'on a la chance dans ce métier, si vous voulez, d'avoir une palette très riche. Tout en faisant le même travail, on est dans des univers différents. Moi, je suis passée donc de l'univers de la drogue, de la déchéance des jeunes, des boîtes de nuit où, bon, c'est vrai, il y avait des soucis, des squats, enfin, bon, où on allait tous les jours, vous voyez, c'est-à-dire, c'est très, très varié. Après, je suis passée à la Mondaine, qui était la brigade de répression du proxénétisme, donc j'étais dans le milieu de la prostitution, des travestis, enfin, vous voyez, encore un autre univers, le monde de la nuit, complètement. Ensuite, le grand banditisme, et puis je suis venue à la crime, quoi, et aux grandes affaires, les attentats, etc. Donc, vous avez une grande variété. Donc, à chaque fois qu'on me disait ça, bon... Bah oui, bon, voilà, je savais qu'un nouveau challenge m'attendait, mais bon, était quand même passionnant.
De toutes les manières, tous ces métiers-là correspondaient aussi à votre souci, ce qui est presque votre devise, c'est-à-dire d'être sur le terrain, d'arriver tôt, de partir tard. Quand il y a une affaire, tu sors, et écrivez-vous, il faut être là où ça dérouille.
Oui. Ah oui, mais moi, ça, c'est, je pense que c'est le métier de policier, c'est celui-là. C'est un métier, c'est un travail d'équipe. C'est donc un travail où tout, depuis le patron jusqu'à tous les membres de l'équipe, bon, on est unis. C'est-à-dire, il y a le quotidien, et puis il y a aussi l'événement, ce qu'on appelle effectivement la dérouille. Il faut y aller, et là, on doit tous y aller, j'allais dire, comme un seul homme. C'est-à-dire, il faut y être. Et il n'y a rien de tel, d'ailleurs, que pour bien s'imprégner d'une affaire, pour tout voir, tout scruter. On est complémentaires les uns par les autres. Chacun a un regard qui complète celui de l'autre. Et qui permet de dire, bon, voilà, on ratisse une scène de crime, ou alors on ratisse un événement, même si c'est pas une scène de crime, et on le sent tous, et on le gère mieux, voyez, en cohésion totale, quoi. Voilà, oui, c'est normal d'être comme ça, et puis en plus, le patron, je crois qu'il doit donner l'exemple. Donc, c'est vrai, il est là, présent, le matin tôt, tard le soir, et puis s'il faut sortir, et s'il y a des difficultés, il doit être en première ligne.
Monsieur le préfet de police de Paris, Michel Godin, merci de nous recevoir ici à la préfecture de police voisine du 36 quai des Orfèvres. Précisons-le tout de même, nous ne sommes pas dans les lieux, mais vous êtes celui que là-bas, les fonctionnaires de police nomment le grand patron. Cette appellation vous convient-elle?
Bah, écoutez, si c'est celle de la tradition et qu'on vous l'a dit au 36, elle me convient parfaitement. Mais c'est vrai que l'appellation patron, qui est une appellation usuelle dans la police nationale, concerne plutôt les policiers eux-mêmes. Le patron, c'est le policier et le préfet de police, traditionnellement, ce qui peut d'ailleurs surprendre, compte tenu de la qualification du titre, n'est pas un policier.
Est-ce qu'on peut parler ensemble, Michel Godin, justement de cette pyramidalisation, puisque à vos ordres, la préfecture de police de Paris, c'est plus de 32 000 personnes, je crois.
C'est tout à fait ça, effectivement, puisque la préfecture de police est une trentaine de milliers de fonctionnaires et militaires, et d'ailleurs... Je m'honore également, ce qui est plus et moins connu et plus surprenant, d'avoir, je suis sans doute le dernier fonctionnaire de France, quelques religieuses à disposition, puisque le dépôt et la partie consacrée aux femmes est gardée par des religieuses. Voilà. Donc, sur
c'est une vraie incongruité, d'ailleurs.
Non, c'est pas forcément une incongruité, parce qu'elles y font un travail particulièrement précieux, que d'ailleurs, un jour, vous pourriez peut-être honorer.
Vous voulez dire en étant gardé par elle ou au contraire en me penchant sur leur travail au quotidien?
En vous penchant sur leur travail au quotidien, je ne doute pas un instant que vous puissiez être gardé par ces religieuses. Pour être plus sérieux, répondre à votre question sur la hiérarchie de la maison, c'est vrai qu'il y a une tradition de hiérarchie à la préfecture de police, dans la mesure d'ailleurs où nous sommes à la cité. Ici, le bâtiment qui a été construit pour être une caserne. Et il y a d'ailleurs dans la terminologie qui est utilisée ici des connotations militaires, puisque la réunion que je tiens trois fois par semaine s'appelle le rapport. Voilà. Et la préfecture de police ne se réduit pas au 36, mais est également une belle institution durable, complexe et singulière. Et je crois que au sein de cette préfecture de police, la très prestigieuse police judiciaire parisienne mérite le détour que vous avez fait.
Mais cette police judiciaire, au service de qui est-elle ?
Elle est au service du droit, au service de la liberté, au service de l'expression de la vérité confirmée par la justice. Je ne pense pas d'ailleurs que ce soit remise en cause. Et donc, elle est au service de nos institutions. On vit dans un pays démocratique qui est fondé sur un certain nombre de principes qui, pour la plupart, sont issus des Lumières, et je crois qu'à cet égard, la police judiciaire remplit parfaitement son rôle dans notre pays. Et je crois que notre système fonctionne plutôt bien, sans tomber dans l'autosatisfaction.
Vous qui êtes à la tête, Michel Godin, de la préfecture de police de Paris, qui est placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, et qui est donc responsable de la sécurité dans l'acceptation la plus complète du terme. Votre regard peut-être sur une question qui préoccupe beaucoup de gens. On a quand même l'impression que les rapports sont toujours ambigus et troubles entre les citoyens et une institution, la police, qu'on a toujours envie de considérer comme une menace des libertés au lieu d'une garantie des droits.
Écoutez, moi, je pense que nous devons nous efforcer, c'est quelquefois effectivement un peu compliqué de le faire comprendre au premier degré, parce que dans une société, dans un monde où peut-être les idées d'autorité, de discipline sont moins bien perçues qu'elles ne l'ont été, bien que ce soit, à mon avis, discutable. Le rôle de ceux qui incarnent cette autorité, qui incarnent ces valeurs de hiérarchie, de respect du droit, sont un peu plus difficiles à faire partager. Mais si on prend un peu de recul, si on regarde ce qui se passe depuis plusieurs décennies, d'ailleurs, eh bien, je pense que nous permettons l'exercice des libertés. Vous savez, si je pense à ce qui se passe actuellement dans Paris, où nous avons des manifestations, l'année dernière, en 2008, il y a eu plus de 4500 manifestations qui ont été organisées dans Paris. Je pense, et nous en réjouissons tous, qu'il y a eu assez peu, voire pratiquement pas d'incidents, et il nous appartient donc de faire en sorte que les libertés, que les idées puissent s'exprimer. Alors, si à partir d'affaires, de cas particuliers, ceci peut être considéré comme remis en cause, je ne pense pas que sur le fond, ça puisse être beaucoup remis en cause dans un pays comme la France. Et d'ailleurs, au-delà d'ailleurs, parce que je prends l'exemple des manifestations, mais la lutte contre la délinquance en elle-même me paraît être, enfin qui est la mission fondamentale d'une police, avoir pour objet de permettre l'exercice des libertés. Enfin, on a souvent dit que la sécurité était la première des libertés. D'ailleurs, pour avoir travaillé sur la loi d'orientation de 95, celle de 2002, et puis en chantier avec le ministère sur celle qui sera la future LOPCI 2, nous avions en 95 été un peu surpris que la notion de sécurité elle-même ne soit pas prise en compte dans les textes. C'était la notion de sûreté qui avait été prise en compte, si on est très strict sur la terminologie, dans la Déclaration des droits de l'homme. Mais cette loi de 95 avait fait, pour la première fois, je crois, dans l'histoire juridique, de la sécurité la première des libertés.
Vous écrivez, Frédéric Pechenard, en conclusion de votre récit, Gardien de la paix, publié peu après votre nomination à la tête de la Direction générale de la police nationale par Nicolas Sarkozy en juin 2007, que la police n'est que le reflet d'une société, qu'elle n'est, je vous cite, ni meilleure, ni pire, elle est bonne ou mauvaise. Poursuivez-vous en fonction de l'État qu'elle sert et de la manière dont elle le fait. L'État avec un grand E. Ce qui n'empêche pas de se poser, vous en conviendrez, des questions sur ce métier. Et ça, vous terminez de cette manière-là. Mais force est de constater que nombre de citoyens ne s'en privent pas, eux aussi, rajouterais-je, de s'en poser. Et que beaucoup d'entre eux s'inquiètent de ce qui peut paraître ou apparaître comme une forme de toute-puissance. Ces temps-ci, je veux parler des multiplications des contrôles, des expulsions des étrangers en situation irrégulière, des fichages de certaines catégories de la population, de la vidéosurveillance qui se généralise. Frédéric Pechenard, votre réponse à ces inquiétudes qui signent comme un divorce entre les citoyens et leur police?
Je ne le ressens pas comme tel, et je n'ai d'ailleurs jamais ressenti comme tel. En fait, de temps en temps, d'ailleurs, des sondages d'opinion pour voir un petit peu quelle est l'opinion des gens sur la police, on s'aperçoit que les gens ont beaucoup plus confiance dans la police que ce que, disons, les médias ou certains médias répercutent. Je crois d'abord, je voudrais rendre un hommage à la police française. Je crois d'abord qu'on a une très bonne police. On a une très bonne police parce que c'est une police qui est bien structurée, qui est attractive à la fois par les missions qu'elle nous permet de réaliser, et puis également, disons-le bêtement, parce que c'est quand même un boulot qui est convenablement payé chez nous, ce qui fait que nous avons beaucoup de candidats pour un poste, ce qui nous permet d'abord de faire une très bonne sélection, une sélection sur les antécédents, une sélection psychologique, puis une sélection sur le QI et puis l'examen. Après, nous avons des formations qui sont très complètes, puisque un gardien de la paix est formé en une année complète. Et puis après, il est pendant encore un an stagiaire. Les officiers de police sont formés sur 18 mois, les commissaires de police sur 2 ans. Et après, tout au long de sa carrière, eh bien, chaque policier peut continuer à monter en grade et bénéficier de formations. Nous avons également une déontologie qui est assez stricte. Nous avons un code de déontologie. Nous avons un conseil de discipline qui a le bras lourd quand il faut sanctionner les dérives, mais c'est vrai aussi que nous savons faire corps pour défendre ceux d'entre nous qui sont injustement accusés. Par ailleurs, nous sommes un corps extrêmement contrôlé. Nous avons d'abord nos contrôles internes, l'inspection générale de la police nationale, l'inspection générale des services. Nous avons notre contrôle naturel qui est la justice, procureur, juge d'instruction. Nous avons contrôle de la haute hiérarchie administrative, corps préfectoral, etc. Nous avons naturellement, si j'ose dire, c'est peut-être même le contrôle le plus dur, qui est le contrôle médiatique, puisque rien ne se fait dans la police. La police française, c'est quelque chose d'incroyablement transparent. Rien ne se fait en dehors du champ des caméras, des radios et des... Si on voulait parler de la police judiciaire, tout ce qu'on fait en police judiciaire, les 25 ans que j'ai passé à la police judiciaire, ont eu comme seul but d'emmener des gens dans un prétoire. Et à ce moment-là, vous allez témoigner et tout ce que vous avez fait est public. Donc on a vraiment une police qui est complètement transparente. Ce qui, je crois, est de nature à rassurer. Puis alors, en dehors de ça, on a tout un tas d'autorités administratives indépendantes, européennes, internationales, françaises, la HAD, la Haute Autorité de lutte contre la discrimination, la CNDS, la Commission nationale de déontologie de sécurité, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Comité européen contre la torture. Un jour, je les avais recensés 14 entités administratives indépendantes susceptibles de venir du jour au lendemain dans mon bureau pour me contrôler. Bien. Je ne m'en plains pas. je ne m'en plains pas. Et chaque année, on prononce des dizaines et des dizaines de sanctions administratives qui vont du blâme à la révocation. Et puis, une autre chose qui est très importante à dire, et ça je crois qu'on ne le dit pas assez, on ne s'en rend pas assez compte, on a une police qui est extrêmement peu violente. La police française a cet objectif en tête en permanence, quelles que soient les circonstances. En Guadeloupe, zéro mort. En Martinique, zéro mort. À Villiers-le-Bel, zéro mort. En mai 68, zéro mort. Alors c'est vrai que ça, c'est des techniques, des tactiques. Ça implique d'avoir beaucoup de monde, ça implique d'avoir des gens qui soient bien protégés, bien formés, parce qu'il faut quand même que tout le monde rentre le soir à la maison. Hein. C'est une obsession quand vous êtes un chef de police, c'est quand même que quand vous développez quelque chose sur le terrain, c'est que tous les hommes et les femmes qui composent les gens qui sont autour de vous, l'équipe, le groupe, la section, la brigade, la compagnie, rentrent le soir chez eux. Et ça, c'est très important. Voilà, donc non seulement je suis pas très inquiet de la police française et de la façon dont elle est perçue, mais en plus, je crois très sincèrement que la population française peut être fière de sa police. Alors après, c'est vrai qu'on peut certainement faire mieux. Et puis, vous savez, 95% de la population a affaire à la police dans deux circonstances. Sur un contrôle routier ou quand ils viennent au commissariat pour porter plainte ou de demander quelque chose. Et bien souvent, l'impression que les gens vont avoir de la police, ça va s'arrêter là. Donc c'est vrai que sur l'accueil du public et sur l'arrestation des contrevenants de la route, il faut y faire particulièrement impression parce que c'est l'image de marque de la police.
Frédéric Pechenard, au-dessus d'un chef de la police nationale, celui que vous êtes, se trouve non pas un préfet, mais un ministre de l'Intérieur. On est en ces murs, ici rue des Saussées, un ministre qui ne doit rien ignorer de ce qui se passe et se trame et se décide ici derrière vos portes capitonnées.
Effectivement, elle n'ignore rien de ce qui se passe. Alors, vous savez, au fur et à mesure où l'information remonte de la base, à chaque niveau, le rôle de la hiérarchie est de faire un tri. C'est-à-dire qu'il y a ce qui intéresse l'échelon immédiatement supérieur, qui doit monter, et puis il y a ce qui n'intéresse pas l'échelon supérieur, qui ne monte pas. Donc c'est toute la difficulté de mon poste, en fait, c'est d'être suffisamment informé pour informer le ministre de ce qui est nécessaire. Voilà. Tous les soirs, il y a une réunion au ministère intérieur, avec le ministre de l'Intérieur, son directeur de cabinet, et puis les trois responsables de la police en France, qui sont le directeur général de la gendarmerie nationale, le préfet de police et moi-même. Et autour de cette réunion qui dure une heure, eh bien, chacun des trois responsables de la police donne un certain nombre d'informations, les informations qui paraissent les plus essentielles pour la connaissance du ministre.
Je vais peut-être vous étonner, Pierre Jox, mais voici une explication de notre présence à votre domicile parisien, ici voisin du 36 Quai des Orfèvres. Car en effet, quand il évoque les ministres de l'Intérieur qui se seraient nettement détachés du lot en ce qui concerne l'évolution de la police, eh bien son actuel directeur, Frédéric Pechenard, cite... sans surprise, celui qui est son ami d'enfance, Nicolas Sarkozy, mais le premier, eh bien, c'est vous.
Écoutez, je ne sais pas. Je pense que j'ai eu la chance d'être à l'intérieur pendant pas mal d'années, au total presque 5 années. Donc je crois que c'est très utile, très important. Si on n'a pas le temps, on ne peut pas faire grand-chose. Quant à Pechenard, il est gentil et peut-être indulgent, mais lui, évidemment, lui, il a été servi. Parce que lui... il s'occupait de police judiciaire, de police scientifique. Il a été un de ceux qui ont vu, alors là, grâce à moi, on peut le dire, se reconstruire et se développer la police scientifique et technique. Les policiers d'aujourd'hui, les policiers de police judiciaire, ils ont à leur disposition aujourd'hui des éléments d'analyse et d'identification et après de preuve qui n'existaient pas il y a 30 ans.
Pierre Jox, le 36 Quai des Orfèvres, cette police judiciaire... aux ordres du ministre de l'Intérieur ou celui de la justice ?
Non. Ah oui, vous êtes corrigé. Ben, ni l'un ni l'autre, en vérité.
Ah oui.
Elle est gérée par le ministère de l'Intérieur. Elle peut être aux ordres dans certaines missions, bien sûr, mais elle est au service de la justice, on devrait dire même plus précisément au service de juges qui, chargés d'une affaire donnée, peuvent donner des commissions rogatoires, etc. Donc, elle est pas. C'est d'ailleurs une particularité, j'aurais dû dire ça en commençant, c'est que parmi les policiers de police judiciaire sont les seuls qui ne soient pas entièrement, ni uniquement, ni même principalement, dans la hiérarchie du ministère de l'Intérieur. Fonctionnellement, ils participent d'un service public, qui est le service public de la justice, et où, par conséquent, ils agissent au nom d'un juge. Ils sont donc très particuliers, les fonctionnaires de police judiciaire. Et dans certains cas, ça m'est arrivé, en effet, de constater que pour certaines informations, je ne pouvais pas les demander parce que je ne pouvais pas les avoir, parce que j'aurais mis... Parfois, ça m'aurait été utile, oui, pour des affaires de... Bon, il faut dire que quand on était dans le terrorisme, à l'époque très actif en France, là, les policiers, soit de la PJ, soit de la DST, soit des RG d'ailleurs, tous ceux qui luttaient contre le terrorisme, étaient bien conscients du fait que les informations, il fallait qu'elles circulent.
On est dans autre chose que les affaires sensibles. Alors là, c'est ça, cette fameuse méfiance que souvent on voit exprimée par la police judiciaire à l'égard du politique.
Bah, je sais pas, moi, ils n'ont jamais eu l'occasion de me l'exprimer. Peut-être qu'ils étaient cachotiers, mais... Vous savez, moi, je suis magistrat d'origine. Je suis de nouveau magistrat, d'ailleurs. Je suis sorti de l'ENA dans une magistrature. J'ai passé beaucoup plus de temps de ma vie en dehors de la politique. J'ai donc toujours facilement respecté ce genre de règles de séparation des pouvoirs. Ça ne m'a pas posé de problème. Donc, c'est peut-être une des choses aussi pour lesquelles peut-être qu'un certain nombre de policiers... On gardait à mon souvenir de mon passage, c'est que je suis très attaché au droit. J'ai suspendu un jour un commissaire de police, quelques semaines après mon arrivée à l'intérieur, pour des raisons... il avait une matraque électrique, c'est le commissaire d'Annonel, ça fait toute une histoire du feu de Dieu. J'ai suspendu tout de suite, et on me dit « Ah mais non, on peut pas faire ça, il faut les commissions, ceci, la référence, la procédure, machin, je dirais. » Un commissaire de police qui possède une matraque électrique dans son bureau, dehors. Et il a été d'abord suspendu, et ensuite il a eu des sanctions, etc. Pourquoi ? Parce que je pense que la base de tout, c'est le respect du droit. Et les syndicats de police eux-mêmes ont participé à l'élaboration du code de déontologie de la police nationale, qui n'existait pas avant, qui existe toujours, qui est mis en place. Donc je pense qu'il n'y a pas que les questions d'informatique et de crédit. Je pense que le fait que j'ai pratiqué et diffusé le respect du droit... joue un rôle dans la réputation que je peux avoir auprès de policiers. Ils l'ont peut-être pas toujours apprécié sur le moment. Je me rappelle l'un d'entre eux un jour me disant « Ah, monsieur le ministre, j'en ai connu des ministres, mais jamais j'en ai connu un qui disait toujours que le droit, la loi, le droit, la loi. » Je lui ai dit « Écoutez, mon cher, il faut vous y faire une raison. » Parce que dans l'ensemble, les fonctionnaires en général, les fonctionnaires de police en particulier, ils préfèrent que les choses soient claires. Et quand on dit on applique la loi, et si on la trouve mauvaise, on essaie de la faire réformer, mais en attendant on l'applique, c'est clair, c'est plus facile. Le flou commence quand on n'est pas clair. Les violences, les pratiques de répression illégales, les violences illégitimes, ça résulte toujours du fait que soit on n'a pas donné d'ordre assez clair, soit on n'a pas veillé à ce que les ordres soient respectés.
Merci.
Bah, je vous en prie.
Une semaine au 36. Quatrième et dernière journée passée derrière les portes capitonnées. Remerciements à Marie Lajus, directrice de la communication de la préfecture de police de Paris, et à Henri Moreau, chef de cabinet au 36. Extrait du 36 Quai des Orfèvres d'Olivier Marchal. Attaché de production, Laure-Hélène Plancher, Christine Gage. Sur les docks, Alexandre Hérault, Yvon Croisier.
C'était... Derrière les portes capitonnées, le quatrième et dernier temps de Une semaine au 36, un documentaire diffusé le 2 avril 2009 sur France Culture.